Mon message d'aujourd'hui, c'est ne vous découragez surtout pas parce que les choses bougent, évoluent de mieux en mieux dans notre direction au service du vivant et au service de l'amour. Alors, je vous donne toutes les raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas lâcher maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi. Nous sommes le lundi 22 juin 2020, c'est-à-dire que nous sommes entrés officiellement dans l'été, dans la période de l'été 2020, l'été de tous les possibles les meilleurs comme les pires d'ailleurs, mais tout ça, ça va dépendre de vous et de moi. Ça ne va pas dépendre des dirigeants qui, soi-disant, prennent soin de notre santé, prennent soin de notre bien-être sur toute une série de dimensions. Je pense que cet été, ça va être vraiment l'occasion ou jamais pour nous, en tant qu'êtres humains, de nous autodéterminer et de reprendre notre vie en main dans toute une série de domaines. Et j'avais envie de consacrer cette conversation pour vous inviter simplement à ne pas perdre courage parce que vous êtes extrêmement nombreux à me dire que vous commencez à être fatigués de voir à quel point autour de vous les gens sont restés dans une sidération, dans une bêtise. Vous êtes découragés de voir qu'il y a autant de personnes qui se soumettent au port du masque, qui se soumettent au lavement des mains avec du gel hydroalcoolique extrêmement toxique qui fait que de plus en plus de personnes commencent à avoir déjà des allergies, avoir des démangeaisons, avoir des rougeurs, sans compter ces enfants que l'on oblige à l'école à se laver les mains 8 à 10 fois par jour avec cette saloperie de gel hydroalcoolique. Vous êtes de plus en plus donc nombreux à être découragés en disant « mais ça fait des semaines et des semaines, sinon des mois, que j'essaye de réveiller mon entourage autour de moi et il n'y a rien qui bouge, ils ne comprennent ni de la tête ni du cul, comme on dit ici au Québec, et moi j'ai envie d'abandonner. » Alors, j'aurais envie de vous dire quelque chose, c'est n'abandonnez pas. Et je voudrais vous donner juste deux petits témoignages qui m'ont été partagés ces derniers jours. Un premier témoignage de quelqu'un qui m'a écrit sur ma chaîne YouTube et qui m'a dit « Pendant 3 mois, je vous ai pris pour un conspirationniste. Pendant 3 mois, je vous ai pris pour un fou, pour un paranoïaque. » Mais malgré tout, quelque chose à l'intérieur de moi me disait de revenir de temps en temps sur votre chaîne pour voir si vous étiez toujours aussi fou, toujours aussi conspirationniste. Et puis finalement, à la lumière des derniers événements, lorsque j'ai vu que le professeur Raoul à Marseille, qui a sauvé tellement de personnes, est convoqué maintenant devant l'ordre des médecins pour rendre des comptes et pour éventuellement être sanctionné, quand je vois que le professeur Christian Perron, qui vient de sortir un livre absolument délicieux d'ailleurs, parce que je l'ai lu samedi 20 juin, et ce livre s'intitule « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» Et quand je vois, me disait cette personne, que le professeur Perron se voit affublé d'une pétition contre lui depuis qu'il a sorti son livre, je me rends compte, en réécoutant les vidéos que vous avez sorties, Jean-Jacques, depuis le mois de février, que finalement, vous aviez simplement vu à l'avance quelque chose que je ne voyais pas. Et je vous présente mes excuses parce que vous aviez raison, mais je n'étais pas prêt, pas prête à entendre. Mais vous avez semé quelque chose, vous avez semé le doute dans mon esprit. Et aujourd'hui, mes yeux se sont ouverts. Deuxième témoignage que j'avais envie de vous donner, que j'ai vécu dimanche 21 juin, en faisant un petit reportage pour une marche dont je vais vous parler dans quelques minutes, une marche qui vient de démarrer de mon village et qui se dirige vers Montréal, un peu comme à l'époque de Gandhi ou à l'époque de Martin Luther King, où il y a eu une marche où quelques citoyens se sont mis en route et au fur et à mesure des jours, cette marche a rassemblé de plus en plus de personnes pour arriver dans la capitale. Et c'est un peu l'intention de cette marche qui a démarré de mon village aujourd'hui et qui se rend pour Montréal pour le 24 juin 2020. Et donc, je vais vous inviter à rejoindre ces marcheurs ce lundi, ce mardi ou ce mercredi. Mercredi 24 juin, qui est la fête nationale du Québec. Et donc, même si vous n'avez qu'une journée à consacrer à ces marcheurs, eh bien, allez-y, parce que c'est une marche simplement pour réaffirmer en tant que citoyen les droits et les libertés des citoyens. C'est une marche tout à fait pacifique où tous les marcheurs sont habillés en blanc et je serai avec eux le dernier jour pour couvrir le reportage de cette marche qui me touche beaucoup dans son intention. Alors, je reviens parce que donc, en allant faire le reportage dont vous allez voir quelques images dans la suite de cette conversation, quelqu'un m'a dit « Jean-Jacques, tes vidéos ont fait sauter les coquilles que j'avais sur les yeux et les coquilles que j'avais sur les oreilles. » Et je lui dis « Merci, ça me touche beaucoup, c'est pour ça que je le fais. » Et puis, ce monsieur qui s'appelle Daniel me dit « Oui, mais tu sais, Jean-Jacques, je suis sorti avec une fille qui venait d'Europe et pendant plusieurs mois, elle m'a parlé du gouvernement mondial, des Illuminati, des chemtrails, donc les épandages aériens où on nous flanque sur la figure, etc. Et j'écoutais ça, mais franchement, j'y croyais pas, je n'y ai pas accordé un seul crédit, et d'ailleurs ça a signé la fin de ma relation avec cette fille qui me plaisait beaucoup pourtant, mais ça n'a pas été plus loin que ça. Et puis il me dit, je suis sorti avec encore une autre fille qui me parlait elle aussi de toutes les manipulations des compagnies pharmaceutiques, du danger des vaccins, et là aussi je trouvais qu'elle exagérait, qu'elle était conspirationniste, etc., etc. Et il dit, quand j'ai écouté tes vidéos, ça a fait résonance avec ce que mes deux blondes m'avaient raconté et qui n'avaient pas réussi à faire sauter à ce moment-là mon aveuglement et mon entêtement à rester dans mes croyances que le gouvernement était là pour notre bien et qu'il n'était pas possible que des compagnies pharmaceutiques ou qu'un gouvernement ait des intentions malveillantes. Et donc finalement, je me rends compte que c'est grâce à ces deux femmes que je ne connais pas, que probablement je ne rencontrerai jamais. C'est grâce à ces deux femmes que Daniel, lorsqu'il a entendu mes vidéos, a pu ouvrir les yeux et ouvrir les oreilles à la réalité, qui est peut-être désagréable, mais la réalité du monde tel qu'il se déroule aujourd'hui. Et donc c'est là où j'ai envie de vous dire, même si les personnes à qui vous posez des questions comme je vous ai invité à le faire dans la vidéo précédente. Et franchement, si vous n'avez pas écouté la vidéo précédente, eh bien, je vous invite vraiment à écouter la trentaine de questions que je vous suggère de poser aux personnes que vous rencontrez systématiquement. C'est une façon beaucoup moins violente, beaucoup moins confrontante de semer le doute dans la tête de vos interlocuteurs. Et même si vos interlocuteurs vous disent « Ouais, non, mais ça, c'est de la connerie » et vous rejettent, etc. Dites-vous que vous avez semé une graine dans leur esprit et que cette graine finira par pousser et que cette graine finira par faire en sorte qu'une autre rencontre ou une vidéo ou un documentaire ou un livre comme celui du professeur Perron va finalement déclencher une ouverture de conscience. Donc, c'est là que je vous invite vraiment à ne pas vous décourager et à vous dire qu'il faut parfois plusieurs interactions avec plusieurs personnes pour qu'un individu accepte finalement d'envisager que le monde n'est peut-être pas un monde aussi bisounours qu'il ou elle ne le voudrait. Donc c'est là où je vous encourage vraiment à persévérer dans votre démarche d'interpellation et votre démarche de semeur de doute. Hein? Il y a des gens qui sont des lanceurs d'alerte, j'en fais partie, et puis il y a des gens qui sont des semeurs de doute, de la manière accouchante dont Socrate œuvrait il y a 2500 ans de cela. Donc si vraiment j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui et une invitation à vous faire, c'est retourner voir la conversation du lundi précédente, dont vous voyez l'image à l'écran pour l'instant, et apprenez à poser des questions ouvertes aux gens que vous croisez. Vous savez, moi, quand je vais dans un commerce, maintenant, systématiquement, je demande à la personne qui est en face de moi si elle croit vraiment au fait que le port du masque est quelque chose qui la protège ou qui protège les autres. Je lui pose juste la question. Et que la personne me réponde oui ou non, je lui ai posé la question. Et je lui dis, vous savez, moi, je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de faire en situation d'épidémie. D'ailleurs, je choisis comme mot épidémie parce qu'on n'a jamais eu les chiffres finalement pour atteindre une pandémie. Ou alors, en 2019, on a eu une pandémie. En 2018, on a eu une pandémie. En 2017, on a eu une pandémie. Mais comme on n'a pas atteint les chiffres, ben, on n'est pas en pandémie. On est en épidémie. Voilà. J'ai été à la banque pour ouvrir un compte supplémentaire pour la Fondation canadienne. L'employé de la banque nous a accueillis avec un masque sur la bouche. Moi, je n'avais pas de masque et je lui ai dit, vous savez, personnellement, je ne suis pas effrayé par la présence potentielle d'un virus ou d'un coronavirus. Donc, soyez à l'aise de retirer votre masque si, pour vous, c'est OK avec le fait de ne pas porter de masque. Voyez, je pense que c'est à vous, en tant que client, de mettre à l'aise le commerçant ou l'employé ou le fonctionnaire ou le thérapeute qui vous reçoit. Parce que le thérapeute est coincé par des injonctions gouvernementales, mais si vous lui dites, écoutez, dans l'espace de votre bureau, dans l'espace de votre cabinet de consultation, nous sommes juste vous et moi, si moi je vous dis que je n'attends pas de vous que vous portiez un masque et que vous ayez une protection quelconque, après, c'est la responsabilité de l'un et de l'autre de prendre la décision qu'il veut ou qu'elle veut. Et d'ailleurs, cet employé m'a remercié chaleureusement avec un grand sourire dès qu'il a enlevé son masque et en me disant « Oui, vous savez, je trouve ça très très pénible, d'autant plus que je porte des lunettes, donc chaque fois que j'expire, j'ai de la buée sur mes lunettes, je ne vois plus rien lorsque je regarde mes clients ou lorsque je regarde l'écran de mon ordinateur. » Et les choses se sont terminées là et on a passé un excellent moment ensemble. Vous voyez, ce sont toutes des petites graines que vous allez semer. Et donc, si cet employé reçoit la visite, ne fût-ce que de 3 clients sur 10 dans la journée qui lui disent « Écoutez, rassurez-vous là, moi je ne crains pas les virus, donc si vous voulez enlever votre masque, c'est tout à fait correct. » Eh bien, vous allez petit à petit faire en sorte que les choses vont basculer dans un sens du respect du vivant. Donc, ne vous découragez surtout pas. Ça va ? Bien. J'ai l'intention d'enregistrer une vidéo qui ne s'adresse pas à vous qui me suivez depuis un certain temps et à vous qui me faites confiance depuis un certain temps. C'est une vidéo qui ne s'adresse pas à vous, mais je n'ai pas envie de vous embêter avec cela. C'est une vidéo qui s'adressera donc justement aux journaleux et aux propagandistes des médias, des blogs, des vlogs. Donc tous ces gens qui se croient très malins en dénonçant les théoriciens du complot, les conspirationnistes, les chefs de secte, etc., que nous sommes de plus en plus nombreux d'ailleurs à empoisonner les médias sociaux, à envahir les médias sociaux. Et comme il y a énormément de choses qui circulent à mon sujet, je me suis dit que j'allais faciliter la vie et le travail finalement de ces journalistes et de ces enquêteurs qui se sont improvisés du jour au lendemain redresseurs de tort, hein, ce qu'on appelle les debunkers, les fact-checkers, les comment est-ce qu'on les appelle encore, les décrypteurs, etc. Mais comme ils ne sont pas foutus de faire bien leur travail, vous voyez, parce qu'il y en a qui disent que je suis né en 62, il y en a qui disent que je suis d'origine française, il y en a qui disent que je suis célèbre médecin homéopathe canadien, il y en a qui disent que j'ai fui la Belgique parce que j'avais des ennuis judiciaires en Belgique et que donc j'ai fui la Belgique. Il y en a qui disent que je récolte de l'argent au sein d'une fondation pour payer les frais de mes ennuis judiciaires, etc., etc. Alors je me dis, bon, ok, j'ai vraiment pitié d'eux parce que je me dis, les pauvres, ils sont même pas capables de faire des recherches convenables pour donner des informations fiables à ceux qui les suivent. Donc autant leur faciliter le travail. Donc j'ai décidé de faire une vidéo pour leur donner toutes les informations croustillantes qu'ils pourraient je dirais, utiliser contre moi pour discréditer ma position une bonne fois pour toutes. D'accord? Donc, dans cette vidéo, je vais expliquer en quoi, effectivement, je suis un théoricien du complot. J'expliquerai aussi en quoi, effectivement, je suis un anti-vaccin depuis 34 ans maintenant. J'expliquerai aussi pourquoi je défends depuis 1990 les travaux du docteur Hammer, puisque je rappelle que Rikke-Geert Hammer n'est pas un guérisseur, n'est pas un pseudo-scientifique. Le docteur Rikke-Geert Hammer était médecin spécialisé en cancérologie. Il avait aussi une maîtrise en théologie et un bac en physique. Donc, je dirais que déjà venir dire que c'est un guérisseur, je trouve que ce n'est pas lui rendre hommage. Et donc, je vous expliquerai aussi pourquoi, depuis 30 ans, je continue à soutenir et à défendre les travaux du docteur Hammer. Et je vous donnerai donc un certain nombre de détails qui permettront donc à ces journaleux et à ces fact-checkers et à ces débunkers et ces décrypteurs de me lyncher médiatiquement, mais au moins vous me lyncherez avec des informations qui seront peut-être d'une qualité un peu meilleure. Voilà. Mais donc, cette vidéo, moi je ne vous recommande pas de la regarder. Je vous recommande simplement de l'envoyer à tous les journalistes que vous connaissez et à tous les débunkers, etc., que vous connaissez, qui cassent du sucre sur mon dos pour essayer de discréditer la démarche que je fais actuellement. Puisque je dirais que ça commence à bien faire. Quand vous pensez que même le professeur Perron, qui est quand même un des deux professeurs chefs d'hôpital, avec le professeur Raoul, qui lui aussi est le directeur de l'Institut hospitalier universitaire de Marseille. Donc en fait, ce sont les deux professeurs infectiologues qui connaissent le taux de létalité le plus bas de France. Et comme par hasard, ce sont les deux qui se font attaquer par l'ordre des médecins, qui risquent d'avoir même une suspension au niveau de l'ordre des médecins en France. Et depuis que le professeur Perron a sorti son livre, donc le fameux livre dont je vous rappelle le titre, Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise, eh bien, figurez-vous qu'il y a une pétition qui circule contre le professeur Perron. Donc, vous trouverez sous ma vidéo une contre-pétition qui vient d'être mise en place pour soutenir le professeur Perron dans son travail de dévoiler la vérité et de dévoiler tous les scandales qui ont émaillé la campagne de guerre contre le coronavirus depuis début janvier 2020. Voilà. Ça va? Donc, sous cette vidéo, vous aurez la pétition en ligne pour soutenir le professeur Perron. Et maintenant, donc j'avais envie de vous parler quelques minutes d'une initiative que j'ai trouvée très sympathique. Non, même deux initiatives. Il y a de plus en plus de personnes qui proposent des t-shirts avec des inscriptions que je trouve extrêmement sympas. Donc dans quelques jours, je vais recevoir par la poste un t-shirt qui m'a été expédié depuis la Belgique. Et quand j'aurai reçu ce t-shirt, eh bien, je le présenterai à l'écran et je vous donnerai les coordonnées pour commander ces t-shirts qui sont faits en plus dans du coton biologique donc, et fabriqué en Belgique d'après les informations que j'ai. Donc ce ne sont pas des t-shirts fabriqués en Chine ou en Inde. Donc c'est un produit fair trade et je trouve ça une très très bonne initiative qui donc manifeste votre position par rapport à cette arnaque, je dirais, et cette supercherie du coronavirus. Et je précise tout de suite que je n'aurai strictement aucune commission et aucun intérêt à faire la promotion de ce t-shirt. Autre initiative dont j'avais envie de vous parler, donc c'est cette fameuse marche qui est un peu un mini Saint-Jacques de Compostelle qui est parti ce dimanche matin 21 juin de mon petit village qui se trouve à une centaine de kilomètres de Montréal, au nord-ouest de Montréal, le village de Val-David. Et donc c'est à l'initiative de quelques femmes. Merci aux femmes, une fois de plus, de faire des choses symboliquement très importantes et très fortes. Et donc, vous voyez à l'image, pour l'instant, la cérémonie qui s'est déroulée sur le parvis de l'église de Val-David, où il y a eu un certain nombre de rituels chamaniques qui ont offert cette marche qui se dirige pour l'instant vers Montréal. Donc, il s'agit d'une marche qui se déroule donc le dimanche 21, le lundi 22, le mardi 23 et qui se terminera le mercredi 24 juin. Donc c'est une marche d'une centaine de kilomètres en 4 jours, donc à peu près 25 kilomètres par jour. Et vous êtes invités, en tout cas ceux qui vivent au Québec, ceux qui vivent dans les Laurentides, dans les Hautes ou dans les Basses Laurentides, à rejoindre chaque jour les marcheurs, en étant habillé complètement en blanc, comme vous le voyez à l'image. Et c'est une marche qui est mise en œuvre tout simplement pour symboliquement affirmer notre droit à être respecté dans nos droits fondamentaux et dans nos libertés fondamentales en tant que citoyen. Voilà. Il est très probable, à moins que je sois appelé à d'autres obligations, il est très probable que je serai présent pour le dernier jour, c'est-à-dire pour le mercredi 24. Et vous trouverez donc toutes les informations du lieu de rendez-vous et de l'heure de rendez-vous pour le mardi 23 et pour le mercredi 24 juin. Pour pouvoir rejoindre ces marcheurs de façon tout à fait pacifique, de façon presque méditative, je dirais. Et cette marche est partie d'une intuition d'une femme que j'apprécie beaucoup, une femme de mon village qui s'appelle Aude Louis. Et cette femme a eu cette vision d'une mini-marche comme Saint-Jacques de Compostelle. Et lorsqu'elle m'en a parlé, j'ai trouvé l'initiative très intéressante. Ça m'a fait penser évidemment à la marche de Gandhi, que Gandhi avait mise en œuvre à travers toute l'Inde, où il était parti quasiment seul. Et au fil des journées, bon, c'est une marche qui a duré plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, au fil des journées, il y avait des dizaines et puis après des centaines de milliers de personnes qui s'étaient joints à cette marche qui se dirigeait vers la capitale indienne. J'ai pensé aussi évidemment à la marche contre la ségrégation et pour le respect des droits des personnes de couleur initiée par Martin Luther King. Marche qui, elle aussi, avait démarré avec quelques dizaines de personnes et avait terminé à Washington avec des centaines de milliers de personnes. Marche qui s'était terminée par ce fameux discours de Martin Luther King, « I have a dream », j'ai fait un rêve, et c'est un des textes les plus beaux de l'histoire de l'humanité, je dirais. Et voilà, donc, toute action symbolique que vous pourriez faire, à partir de maintenant, et c'est là encore où je vous encourage à ne pas vous décourager par rapport à ce qui s'en vient. c'est pas parce que les gens qui sont en face de nous et qui cherchent à nous mettre en esclavage de façon permanente avec un système de traçage numérique, avec un système de puçage, avec un système de suivi par reconnaissance faciale, à l'aide de drones, à l'aide de caméras de surveillance reliées par le réseau de 5G, avec une vaccination qui va provoquer une modification de notre patrimoine génétique, c'est pas parce que ces gens-là ont des milliards de dollars à leur disposition qu'ils gagneront. Ils ne passeront pas si chacun et chacune d'entre nous, nous faisons notre part de colibri. Notre part de colibri, ça peut être que vous, qui m'écoutez, vous organisiez une marche, vous aussi, à partir de votre village jusqu'à un point symbolique de destination où vous allez petit à petit demander à vos amis Facebook et à vos connaissances de vous rejoindre et de parler de cette marche au fur et à mesure que cette marche progresse. Ça peut être une marche de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, peu importe, mais faites quelque chose. Ça peut être systématiquement le refus de porter le masque, même lorsqu'on vous oblige de porter le masque. Ça peut être le refus de vous laver, de vous abîmer les mains avec du gel hydroalcoolique, soit en ayant votre petite bouteille d'eau, soit tout simplement en refusant et en regardant le commerçant droit dans les yeux en disant « si vous m'obligez à faire ça, vous ne me verrez plus jamais comme client ou comme cliente ». Vous voyez ? Ça peut être aussi entamer des dialogues, ça peut être aussi poser des questions, mais ne vous découragez pas. Chaque petit geste sera multiplié par des millions et des dizaines de millions, parce que nous sommes des millions et des dizaines de millions, alors que eux ne sont que quelques milliers à vouloir prendre le pouvoir sur la planète dans son entièreté. Donc, ne négligez pas les petits gestes et l'impact des petits gestes que vous pourriez faire, que vous pourriez poser, en étant dans votre dignité et en étant dans votre puissance d'être, dans votre puissance d'amour et dans votre puissance de rayonnement. Je vous embrasse, tenez bon parce qu'ils ne passeront pas et bon amusement avec les autres vidéos que je vous prépare aujourd'hui.